France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Lucie Amir. J'ai lu votre livre que j'ai beaucoup apprécié. Je suis lecteur de romans noirs et de polars depuis que je suis jeune et ça a été pour moi l'occasion de mettre en perspective toutes ces lectures, notamment lorsque vous parlez du personnage policier et le décalage existant avec les thèmes qui sont abordés un petit peu dans le débat public. Et je trouve que ça questionne pas mal mes différentes lectures.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Jean-Bernard Pouy, fidèle auteur de la série noire depuis les années 1980 et éditeur, dit, je cite, qu'il n'y aurait pas de bon polar de droite. Quel est le rapport entre le roman policier, les discours et les festivals qui lui sont liés et le champ du politique? Ce genre littéraire qu'on dit souvent populaire ou divertissant jouit d'une réputation subversive à justifier. Qu'est-ce que ça recouvre historiquement? Est-ce vrai qu'on forme ici plus qu'ailleurs en lisant son esprit critique? C'est ce que discute la chercheuse Lucie Amir, qui a consacré une thèse à ce sujet, thèse qui vient d'être publiée aux éditions Amsterdam sous le titre « Politique du polar » au pluriel. En s'appuyant à la fois sur l'analyse d'extraits de romans, mais aussi sur des entretiens donnés par les autoristes ou encore des observations de terrain, elle sonde les inconscients politiques d'un genre bien moins homogène qu'il n'y paraît. Elle est notre invitée. Et comme chaque jour, on cherchera de la musique dans les livres, et ça tombe bien, le polar aime ça, on est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Lucie Amir.
Bonjour Marie Richeux.
Votre livre « Politique du polar » a paru donc aux éditions Amsterdam. Soyez la bienvenue dans le Book Club. Vous êtes maîtresse de conférences en langue et littérature française à l'université Grenoble-Alpes. Et vous êtes aussi membre de l'association des chercheuses en littérature populaire et culture médiatique. On est ravis de vous avoir à cette table. Ici, on commence toujours par ce qu'on appelle un questionnaire lecture. On va l'orienter un petit peu aujourd'hui, si vous voulez bien, sur ce champ du roman policier. Est-ce que vous êtes vous-même lectrice de polar ?
De fait, oui.
Quand même.
Parce que, bien sûr, puisque j'ai travaillé sur un gros corpus de romans, donc j'ai dû en lire beaucoup et je continue d'en lire beaucoup en essayant de rester un peu à jour sur la question. Cela dit, je ne dirais pas contre toute attente que je suis une lectrice passionnée de polar. Je suis plutôt une lectrice ordinaire, en fait, je dirais, peut-être un peu intellectualisante du fait de mon travail et puis de plus en plus sévère ou soupçonneuse au fur et à mesure de mon travail. Mais en tout cas, ce n'est pas par goût pour le polar que ma recherche s'est fixée sur le polar. C'est en fait à l'origine un choix assez fortuit. J'ai une culture très classique, un parcours scolaire qui me portait vers des œuvres plutôt classiques. Et il y a un moment, je me suis dit que plutôt que de travailler sur Proust, parce que voilà, j'en avais un peu saturé un petit peu et j'ai préparé des concours un peu à la chaîne et je suis tombée deux fois sur Proust dans un programme de concours et je me suis dit à un moment que peut-être, voilà, comme je lisais du polar par ailleurs quand même, je lisais beaucoup Fred Vargas, mais assez classiquement à l'époque.
Comment vous avez commencé à lire du polar ?
Oh bah, je pense assez jeune, en fait. Voilà, j'ai été une lectrice de la Bibliothèque Rose, du Club des Bibliothèques Vertes aussi, du Club des Cinq. Des séries Alice, et, etc. Les séries Enid Blyton. Par exemple, le polar le plus noble parmi celui qu'on distingue et qu'on commente aujourd'hui à l'université, qu'on associe plutôt au roman noir, en fait, je l'ai connu très tard en commençant à travailler dessus. Comme beaucoup d'auteurs de polar d'ailleurs.
En travaillant, en faisant votre thèse, vous avez élargi votre... Bien sûr,
évidemment. Je me suis constitué une culture que je n'avais pas au départ. J'avais une culture, la culture du lecteur de polar moyen, quoi. C'est-à-dire, j'avais lu Michael Connelly et Fred Vargas. Quoi.
C'est déjà quelque chose.
Bien sûr.
Vous parlez d'une lecture intellectualisante et c'est peut-être intéressant de s'arrêter sur ce terme. Dans les questionnaires lecture, on n'a pas toujours des lectrices ou lecteurs experts, d'une certaine manière. Est-ce que votre qualité de chercheuse vous fait être lectrice différemment, Lucie Amir ? Oui. Et auquel cas, comment ?
Eh bien, en fait, quand je commençais à dire que je n'avais pas un rapport passionné au polar, ça me semble être une originalité parce que il me semble que le goût, voilà, la posture des lecteurs de polar dès lors qu'ils se mettent à connaître un peu profondément ce genre, à être des lecteurs un peu assidus, se fonde sur une espèce de posture de lecteur passionné, presque de collectionneur de bonnes lectures. Et moi, du fait même de mon caractère peu expérimenté à l'origine, j'ai aussi cultivé, j'ai eu en fait à cœur de promouvoir un rapport vraiment dépassionné au polar, contre une certaine logique du goût qui, en fait, je trouve, prévaut encore trop souvent dans les études littéraires en général, dans le choix des corpus qu'on étudie. Je trouve que trop souvent, en fait, la recherche en littérature consiste à les présenter en colloque ou dans des revues des corpus qu'on aime bien. Et moi, si j'ai choisi de me fixer sur le polar, c'était justement pour cultiver un rapport différent qui passe plutôt par le questionnement intellectuel, quoi.
Mais du coup, ça veut dire que réduisant le champ du cœur, on aurait plus de lucidité sur son corpus, Lucie Amir. C'est intéressant, finalement, ce serait promouvoir. J'avais jamais pensé à ça. Que dans les études littéraires, peut-être le goût, ouais, ou même l'amour. Enfin, ici, il y a quand même beaucoup de gens qui parlent de ça, de leur rapport au texte comme quelque chose de très vital, de très intime. Il faudrait réduire ce curseur-là un peu.
Oui, en tout cas, parce que je pense que dans la critique littéraire, c'est inévitable et c'est très bien de parler avec le cœur aussi. Mais moi, je suis une universitaire et il faut bien aussi que je fasse valoir un discours qui soit différent de celui de la critique littéraire et qui se fonde sur des bases différentes, rationnelles, scientifiques, tant qu'on peut. Et en ce qui concerne le polar en particulier, je trouve qu'il y a dans les études sur le genre, et je l'ai remarqué très tôt, ce que j'appelle une sorte de biais de sympathie.
Il y a le genre du polar, pas le genre masculin-féminin.
Le genre du polar, ouais. le roman policier, les genres du roman policier en général. Leurs spécialistes, disons, sous prétexte que le genre serait historiquement dénigré ou rangé au rang de littérature mineure, s'autorise peu, encore aujourd'hui, je trouve, à être critique. Et donc, il y a une sorte de biais d'optimisme, de biais de sympathie vis-à-vis de ce genre dans les études sur le polar, je trouve, et par rapport à quoi, moi, je voulais proposer un regard différent.
Et si on revient du côté du cœur, est-ce que vous avez eu, dans votre parcours de lectrice, là, vraiment, Lucie Amir, un coup de cœur du côté du roman policier? Est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur qui se dégagerait dans ce parcours-là? Non, vraiment pas du tout.
Si, si, bien sûr, mais il y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Disons que je suis amenée à lire beaucoup de polars. Il y en a pas mal que j'aime pas tant que ça. Et il y a de temps en temps, même assez régulièrement, des lectures qui me plaisent. Par exemple, tout récemment, là, j'ai lu le dernier roman de Gabriel Massa, qui s'appelle Gracier la bête, qui est une espèce de plongée dans le système de protection de l'enfance, donc un roman social noir qui m'a plutôt enthousiasmé. Les romans d'Hervé Lecor, je les trouve toujours bien écrits. Voilà. Souvent, il y a peut-être un enthousiasme qui revient aussi dans un certain plaisir de la forme, mais ça, c'est une déformation professionnelle.
C'est-à-dire?
Donc, j'aime bien les polars qui sont bien écrits. Donc, les polars d'Hervé Lecor aujourd'hui, ceux de Sandrine Collette, ceux de Jean-Patrick Manchette pour une autre époque, me plaisent aussi pour cette raison-là.
Parce que vous êtes quoi comme lectrice quand vous n'êtes pas chercheuse et universitaire, Lucie Amir? Est-ce qu'il vous reste du temps pour ça? Ou est-ce qu'il vous reste des traces de la lectrice que vous avez été?
Malheureusement, je crois que je n'ai plus aucune lecture qui soit parfaitement désintéressée de mes questionnements de recherche. Même si je lis plein d'autres choses que du polar, parce que je ne réfléchis pas. J'aime bien réfléchir à la conjoncture littéraire contemporaine de manière générale. Donc, j'ai lu Folcoche récemment, par exemple, d'Émilie Lanez, qui m'a beaucoup plu aussi. Et je lis. Je pense que de plus en plus, je lis des essais aussi, et c'est une lecture qui est plutôt récente dans mon parcours de lectrice et que j'aime de plus en plus.
Un nouveau jour qui commence, et pourtant c'est l'angoisse qui recommence. Je ne comprends pas, pourtant aujourd'hui il fait beau. Et quand j'y repense, je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas. T'as déjà eu ce truc, comme une vis dans la tête, et le cœur qui fait bim bam bim bam boum. J'ai le mal, juste le mal de vivre. Oui je sais c'est rien, y'a des choses plus graves dans la vie. Mais se sentir bien, c'est quand même important. C'est sûrement cette fille, c'est sûrement cette fille. Je vais peut-être la retrouver, elle va peut-être se décider. Mais en attendant, je suis seul et j'attends. Pourquoi ce nuage gris encore sur ta tête? Je te l'avais dit, si tu continues comme ça, je te laisserai là-bas, je te laisserai là-bas. Au milieu de tes fracas,
c'est
je te laisserai
la vie. C'est juste un nuage gris. tu te demandes si tu avances. Et pourtant les mêmes tracas qui recommencent. Je ne comprends pas pourquoi quand le bonheur est là et quand j'y repense, je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas. Hier sous la lune, j'ai encore rêvé de toi et ton cœur qui fait bim bam bim bam boum. Ça fait mal à vivre. Mais c'est pas très grave, juste un aléa dans la vie. Mais se sentir bien, c'est tellement important. Ce n'est pas cette vie, ce n'est pas cette vie. Tu ne dois pas la retrouver, mais tout simplement l'oublier. Car en attendant, tu es seul et tu attends. Quand ce nuage gris est revenu sur ta tête, je te le redis. Allez mieux le dire qu'à toi, si tu continues comme ça, tu resteras tout seul là-bas. Car elle ne reviendra pas, tu resteras tout seul là-bas.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Classer les polars du côté d'une littérature de rebelles relève-t-il d'un bon gros fantasme, d'une approximation sociologique ou d'un cliché hérité du passé? Mais surtout, à quoi doit-on la ténacité de cette image sociale? C'est ce que vous vous demandez, Lucie Amir, dans un livre issu de votre thèse qui s'intéresse autant aux textes publiés qu'à la presse qui les commente, qu'aux discours portés par les autrices ou les politiques. Votre livre s'ouvre d'ailleurs sur le discours de Grégory Doucet, maire de Lyon, lors de l'inauguration du grand festival Le Quai du Polar, qui dit, je cite, « tout le bien qu'il pense du polar en tant que genre littéraire » et insiste sur son utilité sociale, sa fonction de dévoilement, de dénonciation, de lancement d'alerte. Quels sont les rapports que ce genre littéraire entretient vraiment avec le champ du politique? Le discours que je viens de citer, directement politique, lui, s'appuie-t-il sur une réalité littéraire et ou sur une forme de réputation historiquement et socialement construite? Politique au pluriel du polar, apparu aux éditions Amsterdam, et on en parle avec vous. Quel corpus, on a un petit peu commencé de le définir tout à l'heure, enfin de l'aborder, Lucie Amir, quand on faisait votre portrait de lectrice, quel corpus a été le vôtre? Comment vous l'avez composé? Sur quels critères? Et avec quelles hypothèses au départ?
Merci, c'est une super question méthodologique qu'on a peu l'occasion d'aborder.
C'est la base.
J'ai au départ voulu m'attarder sur un corpus un peu plus restreint parce que j'ai un goût quand même pour l'analyse de textes appuyés sur des méthodologies un peu linguistiques, stylistiques, etc. Mais assez vite, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas, ce serait trahir en fait les logiques même du genre polar que de travailler sur 10 romans. Mmh. Ce serait ridicule et que ça ne serait pas rendre justice, enfin ça me permettrait pas de rendre compte des logiques qui sont celles d'un genre qui se produit massivement et que je devais donc prendre en compte de manière massive. Donc j'ai constitué un corpus de 200 et quelques romans sur la base des prix, avec l'idée que je voulais saisir ce que sont les critères d'un bon polar aujourd'hui, puisque je m'intéresse en fait à la manière dont on définit les fonctions sociales du polar.
Quand vous dites aujourd'hui, c'est-à-dire que vous êtes allé de quelles années à quelles années?
Je suis remontée au début des années 2000. J'ai pris la création de Quai du Polar comme un moment pivot intéressant.
Je
crois qu'il y a quelques autres. Ce grand festival de polar qui est devenu aujourd'hui le plus important sur le territoire français, qui dicte même, maintenant il se dit qu'il dicte les calendriers éditoriaux dans des collections polar. Donc qui est très important, qui a été créé en 2005. Donc j'ai constitué mon corpus à peu près en prenant cette base là. Et puis mon corpus court jusqu'à la fin de ma thèse en fait, donc jusqu'au début de ma thèse pour être exact, 2019. Donc ça fait un corpus qui s'étale sur deux décennies et qui prend en compte les polars primés de rayonnement, enfin, par des prix de rayonnement national sur une quinzaine de prix, voilà, sur l'ensemble de cette période.
Donc c'était plutôt des auteurs médiatisés.
Oui, en tout cas, faisant l'objet d'une certaine reconnaissance symbolique. Voilà.
Notamment dans ce champ-là.
Oui.
Ouais.
Parce que les prix sur lesquels je m'attarde, ce sont des prix polars. Mm-hmm. L'un des... Il me semble que l'un des phénomènes à prendre en compte pour constituer un corpus aujourd'hui, c'est, et l'une des manières de contextualiser mon propos, c'était de partir du principe, du constat que le genre s'est institutionnalisé depuis deux décennies. Donc il s'est constitué en véritable sous-champ du champ littéraire. Qu'il s'est doté d'un certain nombre d'institutions, d'organismes de promotion propre,
dont les
des
festivals.
Collections qui existaient déjà, mais qui se sont, le nombre de collections consacrées au polar ont explosé depuis les années 90, des festivals bien sûr, des prix, voilà. Et que on avait là tout un écosystème littéraire en fait qui s'était constitué et qu'il fallait prendre en compte pour travailler sur le polar. Et c'est la raison pour laquelle mon corpus, et ça c'est aussi un parti pris un peu marqué de mon travail, mon corpus ne se restreint pas aux œuvres, mais comporte aussi un certain nombre de textes issus d'entretiens, de discours d'escorte, de discours de presse, et même de ces bribes de discours qu'on peut récolter en festival en étudiant les programmes, les éditos d'élus, les titres des tables rondes.
Voilà. C'est ça, moi c'est ça qui m'a paru être aussi une grande originalité de ce travail de thèse, c'est l'hétérogénéité de la matière que vous traitez. Et du coup, on peut se dire comment aligner les outils que vous avez pour le faire, parce qu'évidemment, en tant que chercheuse, on ne va pas s'atteler de la même manière à un roman en bonne et due forme, Lucie Amir, que à une observation de terrain quasi sociologique. Qu'est-ce qui se passe dans un festival, comment ça se sociabilise, ou alors, je le citais, le discours du maire de Lyon qui utilise des mots très particuliers qui ont une résonance politique. En fait, tout, c'est comme si tout pouvait rentrer dans votre machine d'analyse d'une certaine manière.
Oui, et c'est pour ça que le cadre méthodologique que je choisis, c'est celui quand même de l'analyse de discours, une certaine assise linguistique, avec le pari un peu fort, mais un peu risqué aussi, que je fais, de pouvoir identifier des continuités formelles et énonciatives entre les formes des romans et les formes des dispositifs et des discours qui entourent et qui viennent asseoir la légitimité du genre polar aujourd'hui.
Mais ça veut dire que la matière romanesque, vous la prenez comme un discours?
Oui. En fait, un des constats un peu fondamentaux de ce courant de la linguistique qu'on appelle l'analyse du discours et qui s'attache en bonne partie au discours littéraire, c'est de montrer combien tout cet imaginaire qui sépare la littérature du reste du discours social, c'est une illusion, une sorte de piège qui est constitué par le discours lui-même pour se légitimer en tant que discours sûr. Voilà. Et l'idée de l'analyse du discours, c'est de déconstruire en fait cette espèce de surplomb de la littérature et d'analyser la littérature dans le discours social, comme un discours parmi d'autres.
Donc en fait, tout ça est un continuum de mots prononcés, et vous y tendez l'oreille, et vous les regardez, et vous avez les mêmes outils finalement, pour tous les accueillir et les traiter dans cette thèse. Alors puisqu'on parle de discours, parlons des mots. Vous choisissez le mot politique, et vous expliquez au début de votre livre pourquoi est-ce que c'est ce mot-là, plutôt que le mot idéologique, puisqu'il est question justement d'un échiquier politique avec une répartition à gauche, une répartition à droite. Pourquoi le mot politique et pourquoi au pluriel, et qu'est-ce que ça exclut, enfin qu'est-ce que vous faites comme choix quand vous décidez ça?
Alors oui, politique du polar, c'est une formule que j'adapte d'une notion qui a été théorisée il y a quelques années déjà dans les études littéraires, qui est la notion de politique de la littérature, et qui est au départ une catégorie formée pour pour resituer la doctrine de l'engagement sartrien dans une certaine situation historique. Donc là, l'idée en fait, c'était, on était à un moment où on parlait beaucoup d'engagement, littérature engagée, y compris pour la période contemporaine, mais en même temps en constatant que c'était une catégorie qui ne collait plus très bien
avec corpus, été, quoi.
Et il y avait cette volonté de revenir à Sartre et de resituer cette doctrine de l'engagement dans un certain moment politique et dans un champ d'idées aussi, en montrant comment cette proposition s'opposait à d'autres, la théorie de l'engagement manqué de Barthes par exemple. Et donc de là est née cette proposition théorique d'étudier les politiques de la littérature, c'est-à-dire les systèmes de représentation par lesquels on peut asseoir la littérature et qui fondent le débat littéraire sur les fonctions, le rôle social de la littérature. Donc moi, j'adapte un peu cette proposition-là au polar, et en fait, en proposant d'étudier les politiques du polar, je propose d'étudier, de sortir en fait des évidences critique sur le polar qui serait politique, qui serait de gauche, de droite, et en proposant de prendre voilà de prendre un peu de recul, d'étudier les controverses et les débats qui construisent la fonction politique de
et sociale du genre polar.
Ouais. Ouais.
Et d'ailleurs, vous dites, on rêve au pouvoir politique de la littérature. On est dans un temps où on rêve au pouvoir politique de la littérature. Donc, ce temps que vous décrivez, Lucie Amiens, mais vous dites aussi, or, les sciences humaines montrent que le rapport à la politique, mais cette fois-ci, alors, je sais pas quoi, la politique de la cité, quoi, qui serait pas les politiques de la littérature, est décrit autrement. Comment? C'est dans quel moment politique que vous pensez les politiques de la littérature? Je sais pas si je suis claire.
Si. Oui, en fait, moi, mon travail, il s'enracine aussi dans le constat d'un certain nombre de dissonances quand j'ai commencé mon travail. Alors, il y a d'abord cette espèce de distorsion entre ce que je racontais un peu tout à l'heure, entre le sentiment que le polar était avant tout une lecture plaisir pour pas mal de monde, y compris moi, et puis en fait de le découvrir comme un genre très sérieux quand j'ai commencé à en parler en contexte universitaire. Alors pas forcément auprès des spécialistes qui m'ont encadré ensuite, mais auprès des universitaires littéraires qui voyaient le polar de loin, mais qui connaissaient surtout des auteurs qui avaient été légitimés dans ce champ-là, donc Jean-Patrick Manchette, Didier Deninx, et donc ils percevaient ce genre comme un genre politique. Et puis, au fur et à mesure de mon travail de thèse, il y a eu d'autres dissonances qui se sont installées petit à petit. J'en ai une en mémoire qui est assez forte, qui remonte au moment du mouvement contre la réforme des retraites en 2023, il me semble, où il a été à ce moment-là question, mais il en avait déjà été question en 2019, au début de ma thèse, il a été question très fortement de violence policière, et ça venait vraiment au centre du débat politique. Et puis j'avais des camarades qui partaient en manifestation et puis revenaient parler de violence policière, puis en fait le soir ils retournaient à leur polar de manière, enfin déconnectant complètement ce débat public, et puis ce compagnonnage très sympathique avec leur protagoniste préféré, Jean-Baptiste Adamsberg, qui est policier et qui était très sympathique. Et là je me suis dit quand même qu'il y avait quelque chose quand même à questionner dans les représentations de la police que continue de véhiculer le polar, et qui sont, en fait, il faut quand même bien le dire, complètement déconnecté de l'état actuel du débat sur la police.
Oui, c'est intéressant parce que ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Lucie Amir, d'un continuum de penser la littérature, le discours et éventuellement le discours politique comme un continuum. Et là, ce que vous démontrez, c'est que par exemple, pour vos camarades, il y avait une frontière assez étanche entre la manière dont ils pouvaient, eux, porter un discours ou une vision politique du monde et je mets des guillemets, divertissement qu'il trouvait dans la lecture, et où il y avait comme quoi un abaissement d'esprit critique.
Oui, et en fait, qui m'interroge moi aussi en tant que lectrice, pour le coup, c'est-à-dire que, pour revenir à votre première question, moi j'ai un regard très intellectualisant sur le polar quand je m'efforce de le lire comme tel, mais en fait je peux aussi tout à fait me laisser embarquer. De manière très légère par une lecture et avoir voulu lire avec un regard un peu critique et en fait m'être laissé complètement emporté par la logique de l'intrigue,
les pouvoirs du récit, la fiction aussi,
la puissance de la fiction, tout à fait,
mais qui nous autorise à adhérer bizarrement à d'atroces personnages immoraux, dégueulasses et violents parce qu'on est dans la fiction, chose que j'espère tout le monde combat dans le réel, entre guillemets.
Oui.
Sauf que vous dites non, c'est cette fissure là, cette frontière là, elle doit se questionner.
Bien sûr, parce que je pense que ce qui mijote très lentement voilà au fil des années dans les imaginaires des lecteurs doit beaucoup en fait à ce qu'on lit. Et aujourd'hui il y a ce débat sur la police qui vient heurté à quand même tout, enfin comment dire, qui vient à côté d'une certaine rhétorique médiatique qui est là aussi et politique qui est en défense en fait du travail des forces de l'ordre. Donc on a voilà ce débat de sciences sociales sur la police, le travail de défense, de prise en charge d'une justification du travail de la police du côté des médias mainstream, et puis les imaginaires fictionnels qui travaillent sur une autre temporalité, je pense, mais qui contribuent forcément à façonner des représentations. Et En ce qui concerne le policier, c'est quand même très très frappant de voir que la représentation qu'on fait de la police en fiction, de ce personnage qui est quand même souvent... Moi, j'ai travaillé sur les
séries policières. Romanesque ou toute fiction confondue
En fait, je pense qu'on pourrait faire le même genre de travail sur les séries policières. Et même peut-être sur tout ce qui relève de l'émission de télé-réalité aussi, sur la police, il y en a beaucoup. On suit toujours des personnages qui sont sympathiques, qui peuvent être faillibles, mais qui sont quand même plein de bonne volonté. Et puis quand il y a des problèmes, c'est souvent parce qu'il manque des moyens. Voilà. Il y a tout un discours qui court dans les fictions et dans les romans policiers, entre autres choses, et qui en fait résonne tout à fait avec ce que j'ai documenté grâce à des études statistiques sur l'image de la police auprès des Français, qui est en fait très contrariée et très paradoxale. Je le mentionne dans le livre, qui est déchirée entre une certaine représentation critique dès lors qu'il s'agit d'évaluer la police sur ses fonctions spécifiques, mais qui en fait reste globalement chapeautée par une espèce d'idéal. On a besoin de croire en fait en un service public policier, et il me semble que le polar en fait assume cette fonction de maintien de l'espérance, quoi, vis-à-vis d'une bonne police, d'une police démocratique.
C'est aussi une chose qu'a relevé notre auditeur Sébastien du Book Club en vous lisant, cette dichotomie entre une pensée critique aujourd'hui du travail de la police et notamment des violences policières et ce qu'il pouvait trouver dans la lecture des polars, mais pas que.
Bonjour le Book Club, bonjour Lucie Amir. J'ai lu votre livre que j'ai beaucoup apprécié. Je suis lecteur de romans noirs et de polars depuis que je suis jeune et ça a été pour moi l'occasion de mettre en perspective toutes ces lectures, notamment lorsque vous parlez du personnage policier et le décalage existant avec les thèmes qui sont abordés un petit peu dans le débat public, notamment les violences policières, où là je constate que c'est moins abordé dans le roman noir et dans le polar, ou alors à la marge. Et du coup je filerai un petit peu la question autour des personnages féminins, qui je trouve sont encore bien stéréotypés dans le roman noir et dans le polar, et je me demandais si vous aviez un petit peu ou pas constaté ça au fil de vos lectures ou dans le corpus. Merci pour votre réponse.
Et merci à vous pour ces questions. Sébastien, peut-être on peut continuer sur la dichotomie entre personnages, si on a encore d'autres choses à dire, Lucie Amir, pour répondre plus précisément à Sébastien, et puis ensuite sur les personnages féminins, parce qu'il me semble que finalement ça procède un peu du même mécanisme.
Oui. Peut-être pour nuancer sur la question policière, parce que faut quand même rendre justice aux quelques polars qui prennent en charge la question des violences policières. Il en existe. Là, j'ai en tête un roman de Chloé Mehdi qui s'appelle Rien ne se perd, qui porte sur cette question. Un roman de Dominique Manotti aussi, qui s'inscrit vraiment dans le roman social, qui a une culture militante assez solide.
Mais ils font figure d'exception ?
Oui, je crois. C'est-à-dire qu'ils sont noyés dans une production massive qui est quand même plutôt tournée vers le divertissement qui prend les figures de policiers comme des figures d'enquête parmi d'autres, sans forcément les interroger. Ouais. Et je pense qu'il n'y a pas forcément... Ça ne veut pas dire forcément que les auteurs sont pro-police du tout, c'est juste qu'ils empruntent des codes...
C'est la continuité ou le continuum d'un imaginaire.
Ouais, voilà. Et c'est là, en fait, que... C'est un peu là où je veux en venir dans mon essai. C'est-à-dire que moi, il ne s'agit pas de dire que le polar serait de droite ou conservateur. Je ne veux pas renverser le cliché en un autre, si vous voulez.
Sachant mais que le premier cliché étant, et on va y venir, plutôt un genre rebelle, situé à gauche, très progressiste, voire anarchiste, en tout cas subversif.
Quoi. Ouais. Et
donc moi, l'idée, c'est pas de retourner ça.
Voilà. Mon idée, c'est pas de retourner ce cliché-là, mais de montrer quand même qu'il y a dans les structures du genre, dans les codes du genre, des obstacles ou des contrariétés font que, in fine, le polar est peut-être moins progressiste qu'on veut bien le fantasmer.
Alors, on va aller dans un instant sur la question justement de la construction de ce discours comme un polar à gauche ou un polar progressiste, mais puisque Sébastien nous en donne la possibilité, sur les personnages de femmes, ça c'est aussi un endroit où on peut discuter d'un genre plus ou moins progressiste. Lucie Amir, qu'est-ce qu'on peut répondre à Sébastien là-dessus ?
Bien sûr, oui. Déjà, historiquement, on peut quand même dire que le polar est un genre très masculin, et surtout dans sa version critique, c'est-à-dire que toute la tradition qu'on va pouvoir raccrocher à cette espèce d'image un peu subversive et qu'on peut faire remonter à la tradition du polar américain, la version un peu violente et critique du polar, celle-ci, elle est très masculine.
Elle est masculine et misogyne. Parce que c'est masculine, c'est une chose.
Oui, elle est masculine et misogyne dans le sens où elle vient aussi avec un certain nombre d'archétypes, la femme victime, la femme fatale, qui ont été cultivées.
Ou la bonne femme, très en appui, qui fait la cuisine et qui attend, non ?
Oui, même si peut-être on voit moins ce genre de personnage dans le roman noir. Le personnage le plus archétypal, c'est quand même celui de la femme fatale, donc qui en fait capture l'homme, le dévoile l'enquêteur de ses desseins. Donc là, c'est plutôt ça. Et en fait, aujourd'hui, alors il y a quand même un polar. Je pense qu'on peut identifier un tournant post-MeToo du polar avec des voix masculines qui s'interrogent quand même sur ce que le polar perpétue dans la représentation des violences faites aux femmes, etc.
Et parce ça, c'est des voix masculines qui sont les auteurs ou qui sont les personnages ou qui sont les deux?
Les deux, mais une tendance de fond récente là sur ces dernières années, c'est des auteurs masculins qui décident de se mettre dans la peau de femme pour explorer ce que c'est que d'être victime de violence, par exemple. Donc là, des auteurs comme Nicolas Mathieu, comme Hervé Lecor récemment dans un roman noir qui s'appelle Traverser la nuit. Qui aborde cette question des violences sexuelles, ces violences faites aux femmes en général, en fait, en alternant, avec un récit construit en alternance, qui met en scène un personnage de policier qui est confronté à tout un tas de violences dont souvent ce sont des femmes qui sont victimes et qui est en même temps lui-même tenté par la violence, et puis un personnage de femme qui est harcelée par son ex-conjoint, et on sent en fait cette volonté d'établir un continuum, une réflexion globale sur les violences faites aux femmes. Voilà, donc il y en a, mais c'est un tournant relativement récent.
Et assez minoritaire encore ?
Je ne sais pas.
Ok.
Peut-être pas dans le roman noir. Je pense qu'à l'échelle du polar, sans doute encore, mais en tout cas, il y a une tendance émergente qui n'est pas négligeable.
Dans votre essai, vous passez une partie du temps à réfléchir à la construction de ce premier cliché, à savoir d'où ça vient, en fait, cette idée selon laquelle ce genre appartiendrait plutôt à tel ou tel échiquier politique. Vous en produisez une analyse aussi historique. On va écouter une archive de JP Manchette en 1980. Il va définir le nouvel âge du polar, le néopolar, et puis il va parler politique.
Le néopolar, c'est plutôt un phénomène français. Il me semble que c'est une espèce de dégradation du polar classique. Je pense que le polar classique, il a terminé sa trajectoire, on ne peut plus en faire. On a des dégradations, des décompositions, des reprises, qui sont caractérisées d'une part par l'irruption à l'intérieur des cadres classiques du polar, de trucs qui sont complètement étrangers au cadre classique du polar. L'irruption de choses très littéraires dans un genre qui, a priori, était un genre anti-littéraire. Et puis, accessoirement, en France au moins, ailleurs aussi j'ai l'impression, l'irruption de la politique ouvertement, d'une manière quelquefois un petit peu optimiste, et ça c'est un truc que je trouve intéressant, parce que le roman noir, il était noir parce que la situation était complètement bouchée. Là, maintenant, ça bouge un peu partout dans le monde. Alors, le néopolar, il est gauchiste, très souvent. Soit qu'il tape sur les patrons, soit que vraiment, il y ait le triomphe de l'émeute dans les histoires elles-mêmes. Mais ce qui est apparu peut-être là, c'est simplement la politisation. Mais qui était la reprise d'un truc qui existait dans le polar américain classique, même si c'était pas aussi ouvert ni systématique que dans Nada, qui est un bouquin sur un groupe politique. C'est le côté du néopolar que beaucoup de gens mettent en avant. Je ne suis pas sûr que ce soit le côté le plus pertinent. D'ailleurs, il y a du néopolar de droite, il y a ADG.
1980, la voix de Jean-Pierre Manchette. Sur France Culture, je le disais, vous retracez véritablement la généalogie d'une conception militante de ce polar et gauchiste, on entend dans la voix de Jean-Pierre Manchette. Alors, puisqu'on parle de discours et de construction des discours, Lucie Amir, de quel discours résulte cette réputation-là?
Bon, ce qui est intéressant d'abord sur Jean-Patrick Manchette, là, parce que j'aime bien l'entendre à la, je sais pas, une archive radio,
ouais, moi, sur France Culture,
parce que ça dit aussi beaucoup de ce qui a changé sociologiquement dans le polar aujourd'hui, parce qu'on entend, Jean-Patrick Manchette, il n'était pas très à l'aise avec les médias. Il se décrivait souvent prolétaire des lettres et on sent en fait cette espèce de retenue qui dit quelque chose d'une certaine sociologie du polar à l'époque et qui a changé aujourd'hui. Mais on pourra peut-être en reparler, je ne sais pas si...
Qui a changé, c'est-à-dire qu'on a plus des autrices et des auteurs qui sont, on va dire, used to l'exercice médiatique, oui. Qui sont beaucoup plus à l'aise et qui représentent un autre champ
en
social.
En tout cas, qui, en majorité, alors là aussi, moi je ne suis pas sociologue, donc je n'ai pas eu les ressources pour faire une étude sociologique d'ampleur sur la sociologie des auteurs de polar, mais ce que j'ai observé à travers les entretiens que j'ai faits, c'est qu'on a quand même un certain nombre d'auteurs qui ont des affinités assez courantes avec une certaine bourgeoisie culturelle parisienne, des auteurs qui ont été élevés dans le grand bain des grands médias parisiens, des auteurs qui sont des universitaires aussi, Fred Vargas, Michel Bussy en sont par exemple, et qui sont effectivement beaucoup plus habitués à l'exercice de la parole publique.
Mais ça voudrait dire moins penché du côté de la critique sociale ?
Pas forcément.
Ouais.
Mais il y a quand même. Bon, ça veut pas dire qu'il serait forcément moins politique ou qu'il serait moins attaché à faire quelque chose de politique dans leur travail littéraire, mais que leur rapport au champ littéraire se construit différemment, et ça c'est très important. Jean-Patrick Manchette, si il y avait cette volonté de subvertir aussi les formes du polar, c'est qu'il partait d'un rapport qui était très alimentaire, presque subi en fait à sa condition d'écrivain, de petit artisan des lettres, et que il pensait à travers son travail même son rapport avec les conditions de production, les rapports de production dans un esprit très marxiste. Et on ne peut pas ignorer que son acculturation politique et militante a aussi partie liée avec cette condition sociale qui était voilà, plus modeste que ceux des auteurs aujourd'hui. Voilà, donc ça c'était un premier point sur Manchette. Et puis, ce qui est intéressant dans l'archive là, qu'on a entendu, c'est qu'il annonce en fait ce moment très particulier du polar français qui est le néo-polar et qui a été analysé ensuite comme une rencontre entre une tradition qui est effectivement celle du roman noir américain, il le dit, et un moment politique qui est grosso modo celui de mai 68 en France, qui a produit une génération d'auteurs qui s'étaient d'abord socialisés à travers des sociabilités militantes, en militant, que ce soit à travers des appartenances au mouvement anarchiste, situationniste, communiste, et qui ensuite avaient reconverti, souvent à cause de désillusions politiques, leur action militante en un projet de littérature engagée. Je pense qu'on peut inscrire cette génération-là dans la filiation de l'engagement sartrien, pour le coup.
En tout cas, il y avait cette volonté. Du coup, on a plutôt tendance à considérer que ce cliché-là a des origines solides. C'est
oui,
pas qu'un cliché.
Bien sûr, absolument. Ouais. En fait, moi, je ne cherche pas du tout à dire que le polar serait pas politique, que ce serait une bêtise de le dire. Je cherche à saisir ce qui relève du cliché dans la manière dont on a un peu figé cette catégorie de politique dont elle a été récupérée, instrumentalisée par les institutions notamment, et de quelle manière elle ne correspond plus vraiment à la sociologie des auteurs contemporains.
Il cite ADG, et vous le citez aussi, c'est quoi ? C'est qui ?
Bah, c'est un auteur qui a été... C'est intéressant parce qu'en fait, Jean-Patrick Manchette, il définit sa définition du néo-polar n'est pas politique en réalité. Et lui, il incluait un auteur qui s'appelle ADG, qui est plutôt assimilé à la droite.
Ah, mais il le dit d'ailleurs à la fin.
Et lui, il avait une définition plutôt formelle du néo-polar comme un polar un peu au second degré qui se définit sur le mode du pastiche des codes du noir et qui peut rassembler des tendances politiques très diverses. Et c'est après qu'on a, en fait, c'est une reconstruction critique que de faire du néopolar une, un genre, un mouvement politique. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça et un peu plus nuancé que ça.
On va avancer peut-être dans le temps, sauf si vous voulez continuer à parler justement de cette généalogie du cliché du polar ou du néopolar à gauche ou gauchiste, Lucien.
On va parler du poulpe, j'imagine.
Exactement. Après, voilà. Je voulais vous proposer d'écouter Jean-Bernard Puy et cette fois-ci, on est en 1996 dans cette archive.
L'autre chose aussi, c'est qu'on pourrait dire, ah ouais, mais c'est toujours du même point de vue, c'est-à-dire, bon, plutôt un point de vue à gauche, quoi, quand même. Hein. Alors, on a beau dire, oui, il y a quelques auteurs qui sont effectivement de droite. Est-ce que ce serait pas mieux s'il y avait plus là de diversité ?
Non. Non, moi, je suis un militant anarchiste, je hais l'extrême droite. Non, alors, c'est ce côté agit-propre du poulpe, c'est ça ? Non, justement pas. Ce qui est anormal, c'est que dans les gares, par exemple, dans les rayonnages de gares, il y ait des héros de droite et d'extrême droite et qu'il n'y ait pas des héros de gauche et d'extrême gauche. Moi, je veux pas tuer SAS, mais je voulais qu'il y ait au moins quelque chose qui soit le contraire de SAS à côté et que les gens pressent des mains. Et une fois que le poulpe sera dans les gares, c'est gagné. Après, on voit. Je veux pas bouffer plomb et SAS, ils se démerdent. Si on y arrive, tant mieux, mais je voulais qu'il y ait la même chose.
Jean-Bernard Puy, au micro d'Isabelle Rabineau en 1996, le côté agit-propre du poulpe, il est assez clair. Il entre dans la bataille culturelle sur le champ politique en disant, bah voilà, il y a tant de romans en gare qui sont à cet endroit de l'échiquier politique, on doit pouvoir, entre guillemets, répondre, Lucie Amir.
Oui, bon, ça c'est ce qu'on peut appeler le second moment du néopolar et le moment des années 90 où on construit en fait le néopolar comme un mouvement politique et une construction qu'on doit plutôt effectivement à cette génération dite du poulpe dont Jean-Bernard Puy est une figure centrale et qui s'est organisée autour de cette collection née aux éditions Baleine en 1993, le poulpe, comme une collection mettant en scène un personnage dit le poulpe d'enquêteurs libertaires agissant comme de manière assez revendiquée en fait comme un redresseur des torts et comme un chasseur de nazis. Bon, ça a été un peu caricaturé comme ça a posteriori. Et là effectivement en fait ce que je trouve intéressant dans l'archive dans le petit propos de Jean-Bernard Puy, c'est que il resitue bien aujourd'hui, on a un peu oublié, on a cette idée que le polar il serait de gauche depuis quelques décennies déjà, et en fait Jean-Bernard Puy nous rappelle que effectivement si le poulpe a été une entreprise importante politiquement, c'est parce qu'il s'agit d'équilibrer un peu modestement la balance à une époque où, au sein des productions populaires, littéraires populaires, le champ de l'édition était dominé par plutôt des productions de type roman d'espionnage qui penchaient plutôt clairement à droite, et SAS en est le plus gros symbole. C'est des ventes à plus de 100 000 exemplaires pour chaque titre. Je crois qu'ils se vendent toujours pas mal.
Il en fait une bataille.
Et là,
politique.
Voilà, là, on a une bataille, ce qu'on appelle une bataille culturelle maintenant, qui effectivement s'assume comme telle. Et on a un peu oublié, en fait, qu'il s'agissait de rééquilibrer une balance politique qui penche à droite, quand même, depuis en fait, plusieurs décennies.
Et alors, qu'est-ce qui se passe après ce moment-là, 96 ? Parce que finalement, au départ, quand on a parlé de votre corpus, Lucie Amir, on était plutôt du côté du début des années 2000 jusqu'aux années 2020. Quid, justement, de ce cliché de la littérature rebelle ? À quelle sauce vous le mangez, ce cliché-là ?
Oui, alors moi, je m'intéresse en fait à ce qui se reformule plutôt au début des années 2000, donc par rapport en fait à cette génération poulpe, qui a aussi été assez vivement critiquée au tournant des années 2000. D'une part parce que les auteurs de cette génération-là, étant tous de férus militants ou d'anciens militants, avec une très forte culture politique, il y avait beaucoup de querelles politiques internes, des querelles de chapelle qui, pour les écrivains d'aujourd'hui, vraiment ne voulait rien dire. Enfin, en tout cas, c'était des querelles qu'ils ne comprenaient pas. Moi, j'ai eu dans les entretiens vraiment des récits d'incompréhension profonde dans les festivals des années 2000, lorsque les auteurs de cette génération des années 2000, voilà, je pense à Caryl Ferrel, entendaient des querelles politiques entre les anarchistes et les communistes des années 90. Et puis je montre aussi comment en fait cette espèce de catégorie politique qui s'est un peu figée dans le discours médiatique, un peu vérolée quoi, et fatiguée. Comment elle a créé des positions en contre, ce qu'on peut appeler des contre-engagements, de la part d'auteurs plus jeunes, qui ont tenu quand même à s'inscrire dans l'affiliation du roman noir, mais avec une définition de la contribution, politique de la littérature qui est un peu différente et plutôt du côté de la description, en tout cas contre cette espèce de politique de l'agit-propre, de l'intervention sociale qui définissait le néopolar et surtout la génération Poulpe.
Qu'on entendait dans la voix de Jean-Bernard Puy, est-ce que par exemple l'idée de la forme enquête qui serait en soi l'alimentation d'un esprit critique et que déjà en fait en menant une enquête c'est quelque chose qui nous permet de déguiser un esprit critique, est-ce que c'est une sorte de réponse dans ce fameux contre dont vous parlez, Lucie Amir ?
Oui, en tout cas, du point de vue des auteurs, parce que je pense que ce qui se formule du côté des institutions, des élus, est un peu différent, mais du côté des postures d'auteurs, c'est très net qu'il y a réaction à une catégorie, ou à des qualificatifs, la politique engagée, qui sont désormais reçus comme des injonctions aujourd'hui, et contre lesquels les auteurs de polar s'attachent à formuler de nouvelles manières ou à redéfinir ce que c'est que la politique en fait dans la littérature. Et une des voies de cette reformulation de la contribution politique de leur roman, c'est effectivement d'en appeler au roman social réaliste. Donc à cette politique de la description comme étant susceptible de produire chez les lecteurs une réflexion qui ne soit pas qui soit plus active en fait que la réception d'un discours partisan et qui soit même plus productive d'un point de vue politique dans la mesure où il permettrait au lecteur de faire l'addition lui-même ou de se faire une idée à partir d'un roman plus descriptif, plus polyphonique, plus pluraliste, dit-on, voilà, qui formulerait une sorte de synthèse des débats politiques. Donc ça, c'est la politique, la politique du constat qui se trouve, comme je l'aborde dans le livre, reformulée par les institutions sous forme de politique citoyenne, que je qualifie de citoyenne, dans la mesure où, du côté des institutions, la lecture du roman social est revalorisée comme support potentiel d'une instruction civique, d'une éducation au débat.
Alors justement, c'est plutôt du côté de la lecture et de la figure du lecteur de polar qu'on voulait terminer avec cet extrait d'un roman de Karine Misquet qui s'appelle « Arab Jazz ».
Ahmed aime la poésie. Pourtant, il ne connaît plus que des bribes qui lui reviennent fugitivement, telles des bulles, à la surface de l'âme. Souvent, les vers arrivent seuls, sans auteur ni titre. Ici, ça lui évoque Baudelaire, une histoire d'étranger, de liberté, un truc anglais. C'était son auteur préféré, Baudelaire, à l'époque, avec Van Gogh et Artaud. Et puis, il y a eu Debord. Et puis, il avait cessé de lire. Enfin, presque. Aujourd'hui, il achète Le Parisien, les matins où il descend. Et quantité de polars industriels anglo-américains. Conley, Cornwell, Cobain. À de rares exceptions près, les noms se mélangent dans sa tête, tant il a le sentiment de lire le même roman. Et c'est ça qu'il recherche. S'oublier en absorbant l'entièreté du monde dans un récit ininterrompu, écrit par d'autres. Il se fournit à la librairie d'occasion de la rue Petit. Une minuscule boutique du temps d'avant qui a étrangement survécu entre le complexe scolaire Lubavitch, la salle de prière salafiste et l'église évangélique. Peut-être parce que M. Paul, un vieil anarchiste arménien, ne rentre dans aucune des catégories d'illuminés qui se partagent désormais le quartier. Et puis il vend sa littérature profane au poids, ce qui le rapproche plus de l'épicier que du dealer de livres chaïtanique. De temps en temps, le libraire ajoute un ouvrage à la pile sans rien dire. Elroy, Tosh, un manchette inédit. Ahmed cligne très légèrement des yeux, reconnaissant envers son fournisseur de ne pas le laisser sombrer totalement. De ses auteurs, il se souvient.
À un extrait d'un roman qui s'appelle Arab Jazz de Karine Misquet, paru en 2012 aux éditions Viviane Ami, et dont vous vous servez, Lucie Amir, pour parler des différentes pratiques de lecture, mais aussi du polar comme étant l'invitation à faire lire, mais une invitation très institutionnelle, politique, elle aussi. Ça nous permet de penser quoi, là, cette fois-ci, le livre qui met en scène le lecteur de polar?
Ouais, j'ai trouvé intéressant en fait qu'il y avait il y a pas mal de représentations de figures de lecteurs dans le polar, et il y a même des figures d'auteurs et de lecteurs de polar spécifiquement. J'en fais une porte d'entrée pour comprendre comment les auteurs se représentent leur propre travail et ce qu'ils peuvent apporter aux lecteurs. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on a ce lecteur hein, qui est le protagoniste d'Arab Jazz qui est mal dans sa peau, qui fait une psychothérapie et qui lit, et la lecture rentre dans une sorte de parcours de rédemption dans sa trajectoire permet de le polar en fait aucune fonction particulière dans ce parcours là on sent bien qu'il occupe une place dans le champ de la littérature qu'il décrit, qui est minorée par rapport à des lectures qui seraient considérées comme plus sérieuses, comme les lectures mentionnées de Debord ou de littérature.
Baudelaire,
je crois qu'il y a une question de littérature,
poésie,
je crois qu'il y a une question de Baudelaire. Mais qui néanmoins tient une place un peu intermédiaire avec cette idée que en tant que lecture de divertissement, avec ce pouvoir de captation du lecteur, il serait à même de rééduquer en fait le lecteur, un lecteur devenu un mauvais lecteur ou quelqu'un qui a du mal à lire à la lecture, et que ce serait une étape dans un parcours de rééducation intellectuelle. Et ça, c'est ce qu'on retrouve, c'est exactement le propos qu'on retrouve de manière plus ou moins explicite en festival. Le propos sur lequel se repose aujourd'hui la valorisation institutionnelle du polar. Donc je trouve ça très intéressant, et là on revient à cette
même
idée
plus de largement de politique du livre et de politique de la lecture publique.
Bien sûr, encore récemment, je crois qu'il a été question de la part du ministre de la Culture de faire de la lecture de nouveau une cause nationale. Ça a été le cas déjà en 2022, ça a été le cas il était déjà question de lutte contre l'illettrisme dans les années 90, dans les années 2000-2010.
Et commencer par un polar, ce serait un bon début.
Et voilà. Et en fait, le polar fait partie, mais je pense comme d'autres genres de grande consommation, du côté des jeunes, par exemple la littérature jeunesse. Et je pense qu'on pourrait... la fantasy, voilà, doit faire l'objet de discours similaires. Les littératures grand public en général seraient le support privilégié pour amener ou ramener les lecteurs, les gens à la lecture, dans un contexte où la lecture a quand même décliné parmi les pratiques culturelles face à des pratiques culturelles qui prennent de la place.
Et qu'est-ce que ça dit, ça, alors?
Ça fait évoluer la place du polar dans le champ, dans les hiérarchies symboliques du champ littéraire et du champ des pratiques culturelles en général. C'est-à-dire que là où le polar était avant associé à une littérature populaire et donc une pratique populaire, aujourd'hui, il tient une place intermédiaire du simple fait que c'est une littérature. Et que pour cette raison-là, on peut plus tellement parler de littérature illégitime. On est plutôt dans un genre qui occupe une place moyenne en fait dans la hiérarchie des pratiques culturelles, et qui même en empruntant à ce discours de valorisation du livre contre les écrans, ça je le documente aussi, en fait s'aligne en partie sur la norme culturelle telle qu'elle se construit aujourd'hui.
Et donc quitte un peu quand même l'image et marginale et rebelle et subversive qui était débattue au tout début de votre
étude. Bien sûr, en fait, à certains égards, on a aussi un genre qui s'aligne sur un certain élitisme culturel.
Et institutionnel.
Et institutionnel.
Le Book Club continue. Et c'est l'heure de l'agenda du Book Club. On va se situer entre un festival de romans noirs qui vient de se terminer, c'est le Festival du roman noir et social de Vitry, qui a eu lieu début décembre, et le Salon du livre policier de Brest, qui a eu lieu le 14 décembre dernier, et qui a noté d'ailleurs une hausse des fréquentations de 17% cette année. Et si on regarde devant nous, on voit le Salon du livre du Polar à Nemours. Ça se tiendra le 31 janvier et 1er février 2026. En attendant, si toutes les librairies généralistes proposent des romans policiers, des thrillers, des polars, certaines se sont spécialisées dans le genre. genre et on voulait en signaler quelques-unes. Sur les lieux du crime, qui se trouve à Bourg-sur-Gironde, propose une littérature policière du monde comprenant des livres neufs et d'occasion. Il y a aussi la librairie café La Tache Noire, située à Strasbourg, qui propose sur son compte Instagram un calendrier de l'Avent de Polar, roman, BD, essais et jeux, qui est recommandé par la librairie. Ou encore L'Amour du Noir, la librairie elle est située à Paris, en 5e arrondissement, qui est spécialisée dans le polar, la science-fiction, le fantastique et le cinéma. Et ce, depuis 2022. Et puis encore, la librairie généraliste Les Mangeurs d'Étoiles, située à Lyon, la fameuse ville qui accueille ce grand festival du Quai du Polar, et qui accueille quant à elle le cercle des lecteurs de polar 813 des environs. Il s'agit du rendez-vous des amis des littératures policières. On mettra toutes ces adresses, ces bonnes adresses, sur le site franceculture.fr à la page du Book Club.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
On va terminer avec le grand jeu des pages musicales. Lucie Amir, on s'amuse tous les jours à chercher de la musique dans les livres. Et ici, du coup, on a cherché plutôt du côté du polar. Quelle est la place de la musique et des citations musicales dans tout ce corpus? Vous disiez 200 livres qui ont été lus par vous pour cette thèse.
Oui, c'est vrai que j'en fais peu de cas en fait dans ma recherche, mais il y a des liens très forts entre le polar et la musique, le polar et le jazz en fait, de manière privilégiée, mais le polar et le rock aussi. Et il y a des auteurs aujourd'hui qui s'amusent à accompagner leur publication d'une playlist.
Oui, réelle d'ailleurs, où tu peux même flash-coder à la fin.
Peut-être, je ne sais pas s'il y a des codes dans les publications. En tout cas, il y a la liste des titres et puis il y a une invitation du lecteur à lire en musique. C'est le cas de Marcus Mall, de DOA aussi.
Et ben on va terminer avec un roman plus à l'ancienne, La position du tireur couché, 1981, série noire, Gallimard. C'est un hit, c'est de Jean-Patrick Manchette, et c'est Romain qui nous le conseille via le mail du Book Club, lebookclub@radiofrance.com. Je glisse au passage que c'est l'adresse par laquelle vous pouvez nous envoyer vos pages musicales, mais aussi nous écrire tout ce que vous voulez sur cette émission. On est toujours assez ravis et très intéressés de vous lire. T'as vu le dernier Altman ? Quoi, fit Harry ? Le dernier Altman, Robert Altman. C'est un cinéaste, expliqua Anne. À présent, elle regardait en l'air. Le ciel devenait plus sombre que la mer, c'était le crépuscule. Et qu'est-ce que tu penses de la position de Régis Debray sur les médias et les intellectuels ? Demanda Félix en observant Harry avec méchanceté. Et qu'est-ce que tu penses du nouveau polar français ? Et qu'est-ce que tu penses que le jazz peut encore progresser ? Moi, personnellement, j'ai des doutes quand je vois Shep revenir pratiquement au bebop, si ce n'est à Ben Webster, ou quand je vois un mec comme Anthony Braxton se réclamer de l'Iconitz, ou quand je vois à quoi aboutissent des mecs qui semblaient prometteurs comme Marion Brown ou plus près de nous, Chico Freeman. Entre le néant et le chagrin, j'aime mieux l'art, comme disent les Auvergnats. Non, sérieusement. Les uns, c'est la frivolité, les autres, c'est l'ennui. Je dis merde, en me rendant bien compte que ce sont les aspects du même cri, t'es pas d'accord ? Félix reprit bruyamment son souffle. Terrier avait les sourcils froncés. « Je sais pas, » dit-il. « Arrête tes conneries, Félix !» murmura distraitement Anne. « Qu'est-ce que tu aimes, toi ?» demanda Félix à Terrier, d'un air goguenard. Et il jeta un coup d'œil à Anne et ramena son regard sur Terrier perplexe et précisa. « Comme musique, par exemple. » Terrier haussa les épaules. Félix porta son verre à ses lèvres et voulut le vider d'un trait. Maria Callas, dit Terrier. Merci beaucoup, Lucie Amir, d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Politique du polar apparu aux éditions Amsterdam. Au son aujourd'hui, c'était Alexandre Dang à la réalisation. Vivien Demeyer, je glisse au passage que demain, c'est Jean Echenoz qui déballe sa bibliothèque pour le Book Club. Et lui aussi, il aime beaucoup lire Jean-Patrick Manchette. Ce sera la bibli de demain, après quoi je laisserai le micro pendant une semaine à Mathilde Wagman, histoire de me reposer un peu. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Mathilde Wagman, Garance Roubieux, Léa Weissgruss, Cyril Marchand et Alexandre Alaï-Begovic, avec qui vous pouvez continuer la conversation sur le compte Instagram du Book Club.